11h, France Bleu La Rochelle, à votre service. Chloé Bidet, Anne Delanot.
Chaque jour, on se retrouve entre 9h et 10h pour parler de sujets du quotidien dans votre service. Bonjour Anne.
Bonjour Chloé, bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui, nous allons parler de sommeil et d'un syndrome qui concerne le sommeil, l'apnée du sommeil. Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que vous en êtes rendu compte aussi? Parce que parfois, il faut le réaliser. Est-ce que vous pensez en être atteint? Est-ce que vous l'avez traité? Est-ce que vous êtes appareillé même peut-être aujourd'hui? Venez nous raconter ça ce matin sur France Bleu La Rochelle et témoignez au 05 46 50 67 68.
Oui, comment ça fonctionne aussi, tout ça, on en parle avec notre invitée Élodie Pasquale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes orthophoniste, on va redéfinir un petit peu tout ça. Et puis vous poser cette question, est-ce qu'on dort de la même façon toute notre vie?
La réponse est non.
Ah bah tiens, c'est bizarre ça.
Ah oui, c'est souvent les jeunes parents qui se rendent compte déjà de qu'ils ne dorment pas comme avant, avec ou sans enfant. Non, finalement, on se rend compte que tout au long de la vie, on a vraiment des... Alors, d'abord, on part du principe que quand on est bébé, on va dormir 15-20 heures par jour. C'est vraiment génial. C'est une vie de rêve, il faut quand même bien dire. On est toute la journée en pyjama, voilà, on reste au lit, c'est vraiment cool. Après, en fait, on va avoir des... Le cerveau se transforme et déjà à partir de 3 mois, il va y avoir vraiment des cycles de sommeil bien plus réguliers. Et ce qui régule finalement le sommeil, c'est à la fois la lumière et l'alimentation. Donc c'est ce petit cerveau comme ça qui a 3 mois, il va commencer à se réveiller un petit peu en fonction de tiens j'ai faim, tiens il y a de la lumière, bon voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement le cerveau s'adapte un petit peu à ce rythme et va mettre en place les trains du dodo. Donc les trains de sommeil, c'est vraiment des cycles de sommeil qui dure environ 50 minutes. On va avoir des moments où on est vraiment dans des sommeils légers, puis après des sommeils profonds, et puis on repart sur un sommeil bradoxal. Enfin, il y a plusieurs types de sommeil. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que comme ça, tout au long de la vie, on va évoluer. Donc, un enfant qui va avoir 7-8 ans, il va, déjà à partir de 3-4 ans, on n'a plus de sieste. Oui, la sieste, c'est important quand on est petit.
Mais même quand on a 30 ans.
Alors, quand on a 30 ans, alors là, ça va être intéressant parce que normalement, à 30 ans, tu fais pas de sieste. Ah, donc, si vous avez envie d'en faire, c'est peut-être que votre sommeil est un petit peu perturbé. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, voilà, quand on va rentrer dans les apprentissages à partir de 6 ans, le sommeil continue à se modifier. Et puis, il y a un âge qui est assez particulier quand on a des ados à la maison. Les parents se rendent vraiment compte. C'est que là encore, en fait, dans le corps de l'adolescent, c'est l'explosion des hormones. Et par exemple, on le voit, hein, d'autres sujets, mais il y a vraiment un décalage de mélatonine, alors d'hormones qui fait dormir. Et en fait, comme c'est décalé, ces hormones vont être produites plus tard, et ben votre ado n'arrive pas à dormir. Donc on peut mettre ça évidemment sur le dos des écrans, des consoles et tout ça, mais il faut savoir que naturellement aussi, il va avoir un empêchement, c'est pas de sa faute, mais il s'endort plus tard.
Alors, ça, ouais.
Eh oui, c'est ouais. Pas facile. Oui. Mais alors le pauvre, il faut quand même se lever à 7h pour aller au collège ou au lycée.
Et
donc
là, ça
pique. Et donc, vous avez été ado aussi, vous savez bien que vraiment le matin, c'est très dur. Et souvent, les parents disent, c'est pas grave, tu feras la grasse mat ce week-end. Mais l'idéal pour quand même chouchouter son cerveau, c'est plutôt de continuer à se lever tôt, mais de faire une petite siestoune quand on est vraiment fatigué, quand on est ado, moins de 45 minutes et pas après 16h. Ça, c'est l'idéal. Et puis après, quand on est adulte, là, normalement, on continue à avoir moins d'heures de sommeil, entre 7 et 8 heures. Et après, ça continue aussi à se modifier quand on est senior, à partir de 50 ans et à 80 ans. Comme ça, on dort moins.
C'est normal.
Et c'est normal. Voilà.
Pour que vous soyez rassurés, peut-être aussi à la maison si vous vous posez des questions.
On va parler d'apnée du sommeil et de sommeil donc ce matin sur France Bleu La Rochelle avec Élodie Pasquale qui est orthophoniste, qui est là pour répondre à vos questions. Venez témoigner aussi comment vous dormez. Est-ce que vous pensez avoir des troubles du sommeil? Est-ce que parfois vous vous réveillez fatigué alors que vous avez eu une bonne nuit de sommeil? Vous nous racontez tout ça ce matin sur France Bleu La Rochelle en nous appelant maintenant au 05 46 50 67 68. Il est 9h16 et on continue à parler du sommeil et de l'apnée du sommeil ce matin avec Élodie Pasquale qui est orthophoniste et puis avec vous aussi. Est-ce que vous pensez être atteint de troubles du sommeil aussi, d'apnée du sommeil? Venez témoigner ou posez vos questions au 05 46 50 67 68.
On vous lira tout à l'heure les petits messages de Nicole et de Liliane sur la page Facebook. Je voulais juste revenir, Élodie Pasquale, sur les différents types de siestes parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Mais j'aime la sieste, quoi, c'est moi. Non, mais c'est vrai.
Mais oui, il n'y a pas de honte à faire la sieste.
Merci.
D'accord, c'est important. Alors maintenant, on va tous se détendre parce que vraiment, alors il y a 3 types de siestes. Il y a la sieste longue qui est au-delà de 45 minutes, qui peut amener un espèce d'état d'inertie un peu au réveil où on est un peu dans le gaz. Finalement, on a quand même parfois pris un ou deux cycles de sommeil. C'est trop long. Et surtout, quand on sait après 16 heures, c'est ce que je disais, après ça va décaler en fait, retarder notre sommeil nocturne. Donc c'est pas idéal. Donc la sieste longue, franchement, c'est il vaut mieux mettre un petit réveil parce que elle n'est pas idéale pour une qualité de sommeil nocturne.
Mais parfois, c'est difficile d'accepter son réveil et de ne pas le couper pour s'endormir.
Oui, c'est vrai, on regrette après. Donc, ouais, après, on a la sieste courte qu'on appelle nap, qui fait 20-30 minutes. Et elle a un pouvoir de récupération hyper importante. Et en fait, moi, c'est ma préférée parce que pour tous les patients qui ont et tous les gens qui ont des troubles du sommeil, elle permet vraiment de bien récupérer sans décaler, sans abîmer le sommeil nocturne. Parce qu'en fait, on ne rentre pas dans un sommeil profond et on a quand même une bonne récupération à la fois cognitive et fonctionnelle. Parce que c'est vrai que on n'en a pas assez parlé, hein, parce qu'on a trop de trucs à dire sur le sommeil, mais en fait, la première partie de nuit, vraiment, tout ce qui est sommeil vraiment profond, le cerveau va vraiment bricoler, nettoyer. Alors, tout ce qui est cognitif, tout ce qui est musculaire, en fait, il répare votre corps sur la première partie de nuit. Et la deuxième, il s'occupe vraiment de vous faire rêver. Voilà, c'est un sommeil un peu plus léger. Vous avez des mouvements des yeux.
Mais
il est génial. Moi, j'adore le sommeil. Je me dis à chaque fois que je fais mon lit le matin, je me dis, oh, vivement ce soir qu'on se retrouve. Et alors, le dernier type de sieste, c'est la micro-sieste, celle qui dure 5-15 minutes. Et en fait, ça s'appelle la power nap. Si vous cherchez sur Internet, sieste flash ou power nap. Et elle, ça va 5 minutes, mais en fait, elle va pas pouvoir vous faire tenir finalement tout l'après-midi. Si vous êtes vraiment crevé, il faut quand même tenir 20-30 minutes de sieste. Mais l'idéal, c'est quand même de se mettre un petit réveil.
Bon, en tout cas, votre préféré, voilà, entre 20 et 30, ça c'est pas mal. Et il est question de lumière aussi, on vous précisait quelque chose, Élodie Pasquale, hors antenne, qui était hyper intéressant, sur la question de la lumière et aussi pour les seniors.
Alors, effectivement, on parlait des bébés qui commencent avec la lumière et l'alimentation. Eh bien, en fait, il faut savoir que, par exemple, chez les plus de 60 ans, on peut avoir... Alors, il y a un sommeil qui est de toute façon plus fractionné, mais il faut vraiment se méfier, faire vérifier sa vue. Alors, vous allez me dire, mais ça y est, elle est partie sur autre chose. Pas du tout, mais il faut savoir qu'en fait, vous avez certaines pathologies de la vue qui, je rentre pas dans le détail, mais par exemple, la cataracte, ça va avoir tendance à assombrir, en fait, il y a moins de lumière qui rentre dans vos yeux, donc moins de lumière qui rentre dans votre rétine. Donc la rétine se dit, bon, écoute, c'est encore le dodo, on va rester au lit, tranquillou. Et en fait, finalement, quand vous avez moins de lumière, et ben, votre cerveau, il se réveille moins. Donc vous êtes un peu toujours fatigué. Donc, on se rend pas compte que vérifier ses yeux, c'est aussi vérifier sa qualité de sommeil.
Ouais, c'est hyper intéressant. Aussi, on a Marie qui est avec nous ce matin. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci de témoigner par rapport à notre émission autour de l'apnée du sommeil. Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que vous avez été diagnostiquée aussi?
Bah, en fait, j'en ai souffert, mais sans le savoir. Heureusement. Et j'étais beaucoup fatiguée dans la journée. Je dormais beaucoup dans la journée. J'avais pas l'impression que je ne dormais pas correctement la nuit, en fait. Par contre, j'avais du mal à me lever le matin. Et voilà.
Et est-ce que vous avez fait des tests aujourd'hui? Vous êtes sûr que c'est ça?
Oui. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est... Alors d'abord, j'ai souffert un petit peu de... Comment on appelle ça? De dépression. Au départ, on s'est dit que c'est à cause des médicaments. Mais plus tard, quand je n'ai plus dépressive, j'ai voulu passer un bypass. Et lors des examens du bypass, en fait, il y en a un, il faut aller voir l'ORL. Et c'est avec les examens de l'ORL qu'on a découvert, en fait, que je faisais de l'apnée du sommeil. Et du coup, grâce à l'opération, elle a perdu poids. Du coup, l'apnée s'est arrêtée. Mais avant l'opération, il a quand même fallu, j'ai quand même été appareillée.
Ah oui, d'accord.
Et vous aviez senti la différence quand vous avez été appareillée quand même ?
Ah bah oui, le matin je me levais comme avant, je me levais, voilà, je commençais ma journée normale. Je dormais moins dans la journée, c'était impressionnant.
Je veux bien vous croire, Marie. Oui, en fait, ça pose aussi la question des symptômes, Élodie Pasquale, ce que disait Marie.
Oui, parce que c'est vrai qu'on peut trouver, par exemple, des personnes un peu flegmatiques, comme ça, ramollies. Et puis, ça peut être aussi, on se dit, mais cette attitude comme ça, molle, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, on peut avoir des gens qui ont vraiment des coups de mou dans la journée, et on retrouve Gérard le nez dans les rhododendrons, là. On se dit, mais pourquoi tu te mets à t'endormir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah, donc, ça peut être vraiment deux types de, voilà, un peu, quelqu'un d'un peu dépressif, ou alors quelqu'un voilà, qui se dit, voilà, je peux plus, il faut que je dorme. Voilà, il y a vraiment deux types de comportements, un petit peu de fatigue chronique. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que finalement, ça vient toujours de l'air qu'on respire la nuit. Parce que l'apnée du sommeil, c'est quoi ? C'est finalement l'air qui ne passe plus. Donc, j'imagine que vous avez... C'est l'ORL qui a vérifié un petit peu... finalement, il va vérifier plusieurs choses. Il va regarder si vous avez des amygdales plutôt volumineuses. Parce que, par exemple, c'est bête, mais chez les enfants aussi, il y a quand même encore 90% des gamins qui sont pas diagnostiqués. Parce qu'ils ont des balles de ping-pong au bout de au fond de la gorge. Et ben imaginez, alors là c'est pas très radiophonique ce que je vais vous dire, mais comme vous avez la langue qui est quand même un muscle, pour peu qu'il soit aussi pas très tonique, et ben finalement quand vous êtes allongé, tous ces volumes de masse vont reculer, et comme votre l'air passe du nez à la gorge, et ben en fait ça bloque l'air.
Bon, en tout cas merci Marie pour ce témoignage.
On vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
Merci également.
Au revoir. On va continuer à parler du sommeil dans un instant et d'apnée du sommeil ce matin sur France Bleu La Rochelle. Comme Marie, vous pouvez témoigner, prendre la parole, poser vos questions aussi ce matin au 05 46 50 67 68. Nous sommes avec Élodie Pasquale qui est orthophoniste. Il est 9h28, on continue à parler de sommeil dans votre service avec Élodie Pasquale qui est orthophoniste et puis avec vous aussi. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous avez mis en place des choses aussi pour bien dormir, ou au contraire, est-ce que vous souffrez d'apnée du sommeil ou encore de troubles du sommeil? 05 46 50 67 68 pour témoigner.
On a Liliane, je donne juste le témoignage de Liliane sur la page Facebook qui disait: j'ai eu des apnées du sommeil durant de nombreuses années avec de la fatigue, de la somnolence, des douleurs aussi dans la poitrine et le bras, et l'année dernière j'ai consulté. Je suis appareillée depuis 10 mois et tous ces symptômes ont disparu. Le cœur et le cerveau n'étaient pas plus assez oxygénés, c'est ce qu'elle dit, donc c'est important de se faire dépister. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Élodie Pasquale, face à ce message ?
Alors, il est génial parce que vraiment, elle nous sert la théorie sur un plateau, c'est vraiment adorable.
Merci Liliane.
Merci Liliane, vraiment, cœur avec les mains Liliane, parce qu'en fait, c'est très simple. Ce fonctionnement, c'est que l'apnée du sommeil, c'est moins d'air ou pas d'air pendant que je dors. Et donc, les organes dans votre corps travaillent vraiment en équipe. À partir du moment où je n'ai plus d'air, c'est mon cœur qui va commencer à bosser plus. En disant, hop, hop, là, dis donc, on n'a plus d'air, bah, je vais essayer d'aller en trouver partout dans le corps. Donc, il va se mettre à battre plus vite, plus fort. Et en fait, il dit, bon, allez, hop, faut que j'y aille. Parce que son boulot, c'est de maintenir le cerveau avec un maximum d'oxygène. Et au bout d'un moment, quand il en peut plus, il va dire, bon, bah là, les gars, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai plus d'air. Donc là, il va envoyer un message au cerveau pour dire, bon, là, réveille-toi, bouge un peu ton humain parce que ça va plus. Sinon, tu vas t'assécher, quoi. Enfin, sinon, c'est fichu. Donc là, on a un micro-réveil. Et là, bah, du coup, le matin, on a l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Là, on est complètement laminé parce que finalement, on a eu beaucoup de micro-réveils et notre train du dodo, ce cycle où on devait avoir plusieurs types de sommeil, bah là, il est découpé. Et finalement, je me réveille. Alors, j'ai pu dormir peut-être 10 heures, mais ces 10 heures ne m'ont pas permis d'être frais et dispo. Je suis toujours fatiguée parce que j'ai eu plein de petites coupures et des micro-réveils qui n'ont pas lieu d'être.
Et qu'elle parlait de douleurs dans la poitrine et le bras, et donc là aussi ça entraîne en fait tout un tas de choses en plus à côté.
Bah c'est le cœur finalement qui bosse, qui souffre aussi. Mmh. Et c'est vrai que parfois c'est l'apnée du sommeil, on le découvre avec une pathologie cardiaque ou alors des troubles cognitifs, parce que c'est vrai que ces deux organes-là bossent à fond et sont en sur-régime quand on n'a pas assez d'air pour respirer la nuit.
On continue à parler sommeil avec vous et Élodie Pasquale qui est orthophoniste. nutritionniste, vous pouvez témoigner donc au 05 46 50 67 68.
9h-10h, France Bleu La Rochelle, à votre service. Chloé Bidet, Anne Delano.
Chaque jour, on est à votre service entre 9h et 10h sur France Bleu La Rochelle pour parler de sujets du quotidien. Et un sujet ô combien important aujourd'hui, le sommeil, avec tous les troubles aussi qui sont possibles, notamment l'apnée du sommeil. On en parle avec Elodie Pasquale qui est orthophoniste, et avec vous au 05 46 50 67 68.
Oui, vous pouvez témoigner comme Pierre. Est-ce que vous êtes avec nous, Pierre? Bonjour.
Oui, je suis là. Oui,
ah, bonjour. Là. Merci, vous vouliez témoigner. En fait, vous avez un appareil depuis quoi, 30 ans, c'est ça?
Depuis près de 30 ans, oui, maintenant.
Alors, qu'est-ce que ça a changé entre, on va dire, l'avant et l'après?
Ça a changé ma vie, c'est que le matin, je me réveillais, passez-moi l'expression, je n'avais pas la tête dans le gaz. J'avais les yeux qui n'étaient plus injectés comme si j'avais bu les cercles et les tonneaux. Et j'avais une très grosse fatigue. Et lors de la conduite, j'avais tendance à somnoler et à m'endormir au volant.
Donc effectivement très très dangereux, et ça a été long le diagnostic entre savoir que c'était effectivement des apnées, l'appareillage, enfin le changement en fait.
Oh ben oui, parce que vivant en collectivité pendant des années, dans les années 70, mes collègues me disaient que j'avais des ronflements comme si il y avait un train qui passait à longueur de nuit. Et puis, ben, vous voyez, ça des années 78-80, ça a été décelé qu'en 90. Et donc, je suis allé faire un dépistage à l'hôpital Saint-André à Bordeaux, à l'époque, puisque j'étais dans le Lot-et-Garonne. De là, après, on m'a dirigé sur l'hôpital, je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, à Bordeaux, où un chirurgien pratiquait une opération qui était courante aux États-Unis pour éviter les ronflements et tout ce qui va avec. Mais j'étais appareillé, et l'un des techniciens m'a expliqué que il avait des clients ou patients, comme on veut, qui avaient subi cette opération. Ça les faisait énormément souffrir, mais ça n'avait rien changé, et ils étaient quand même obligés d'être appareillés.
Oui, vous, Elodie Pasquale, vous étiez en train de faire des petits signes, voilà, c'est ça.
Exactement, c'est vrai qu'il y a eu un peu une mode d'opération, on coupait un peu une partie du voile du palais, parce que forcément...
Ah non, le voile du palais, je l'avais subi... Je l'avais subi en 88 dans une clinique de La Rochelle, hein, mais ça n'avait rien changé.
Voilà.
Là, l'opération parlait de... On me cassait une partie de la mâchoire, on me tirait un peu le muscle de la langue vers l'intérieur, on me refaisait une partie du palais, et puis ça aurait changé totalement ma façon de vivre, de parler, et puis on va dire de tout ce qui est les voies respiratoires et buccales. Hein.
Oui, donc effectivement, là, c'est quand même des gros
chantier.
Changements. Exactement. Ouais. Il y a aussi des troubles de la concentration, de la mémoire. Ça engendre en fait tout un tas d'autres choses, Elodie Pasquale.
Eh bien oui, parce qu'on en a parlé en première partie. Ouais. Quand je dors dans ma première partie de nuit, eh bien mon cerveau, reprend les apprentissages de la journée. Donc c'est pour ça, par exemple, que je dis souvent aux parents avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, par exemple, d'éviter les écrans le soir. En plus, c'est vrai que si en plus mon enfant a vu un truc qui lui fait peur, alors c'est encore pire que tout, parce que le cerveau est en alerte et en fait il peut pas se reposer, il peut pas revérifier, il repasse en fait tous les trajets de la journée des apprentissages qu'il a fait. Il va solidifier les connexions entre les neurones qui sont apparus dans la journée. Donc cette première partie de nuit, elle est hyper importante, donc il faut se coucher tôt parce qu'à partir de minuit c'est un autre train du dodo, c'est le train plus léger. Donc si après j'ai pas eu mes heures de solidification de mes apprentissages ou de ma mémoire, parce que ça, cette première partie nue, elle est super importante, et toute la vie, et ben finalement après on a des troubles cognitifs.
Alors il y a ça, il y a la fatigue, il y a aussi est-ce que ça peut être des réveils qui nécessitent aussi d'aller aux toilettes, des choses comme ça?
Mais oui, alors on va reprendre la liste des symptômes, comme ça tout le monde va être bien au courant. Donc ça peut être, donc on parlait du sommeil non réparateur, des maux de tête, des yeux comme ça fatigués, l'irritabilité, on peut être ronchon au réveil, c'est vrai que ça fait un peu partie de, normalement on doit pas toujours se lever de bonne humeur, mais quand même le sommeil doit nous réparer. On peut avoir aussi parfois une baisse du désir sexuel pour vraiment plus envie de rien. Ça peut être une espèce de pseudo-dépression aussi, hein, finalement. Les symptômes de nuit, ça va être se lever la nuit pour aller uriner une ou deux fois, avoir aussi cette espèce de sensation d'étouffement, de réveil en sursaut, qui vont être des micro-réveils un peu violents, mais parce que là, en fait, on n'a plus d'air et que, je vous rappelle, hein, le cœur a dit au cerveau, bon bah vite, vite, faut réveiller notre être humain. Des sueurs nocturnes, des gens qui vont transpirer le matin, l'oreiller est mouillé, il y a tout ça. Des réveils nocturnes, le sommeil agité, on bouge dans tous les sens, la couette tombe, on met des coups de pied à notre conjoint. Et évidemment, comme le disait Pierre, les ronflements qui peuvent être à des décibels hyper élevés. Donc, et notre voisin ou voisine est gêné, mais évidemment, quand on se prend 80 décibels de vibration en fait, dans notre propre cerveau, ça ne fait pas du bien, évidemment.
Merci en tout cas, Pierre, pour votre témoignage ce matin.
Et belle journée. On continue à parler de sommeil, de troubles du sommeil et d'apnée du sommeil dans un instant avec Elodie Pasquale qui est orthophoniste. Et puis avec vous aussi, vous pouvez témoigner ce matin autour de votre sommeil au 05 46 50 67 68. Il est 9h41 et on continue à parler de notre sommeil, d'apnée du sommeil, des troubles du sommeil aussi avec Elodie Pasquale qui est orthophoniste. Et puis avec vous aussi au 05 46 50 67 68, venez témoigner, nous raconter votre histoire avec votre sommeil.
Et le quotidien peut être perturbé quand on dort mal, quand on est réveillé, quand on fait notamment de l'apnée du sommeil. Il y a de fortes conséquences quand même.
Oui, parce que comme disait Pierre, on peut s'endormir au volant, quand on fait de la route, il y a quand même plein de conséquences très négatives.
Alors, il y a des choses que l'on peut mettre en place aussi au quotidien, par exemple?
Alors, déjà, on peut se demander quels sont les facteurs, essayer d'évaluer un petit peu dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut pas changer. Il y a déjà un facteur où bah là on peut pas vraiment agir. Les facteurs qui vont amener de l'apnée du sommeil et là sur lesquels on ne peut pas agir, c'est avoir plus de 55 ans, parce qu'il y a quand même à partir de 55 ans on fait plus d'apnée du sommeil. Être un homme, là on ne peut pas agir là-dessus, mais finalement bah, on sait que c'est un facteur important. Et avoir, comme le disait Pierre, l'opération dont il parlait, c'est c'était une histoire de mandibule, donc sa mâchoire, on va le voir, ça peut être lié en fait à une mauvaise posture de langue. C'est d'ailleurs pour ça que je viens parler ce matin, parce que quand même on peut se poser la question,
et pourquoi vous venez, voilà.
Pourquoi une orthophoniste vient parler du sommeil, quand même c'est pas notre cœur de métier, mais la langue si, c'est notre cœur de métier. Et donc de se dire que si j'ai une mauvaise posture de langue, qu'elle est hypotonique et que la nuit elle se met pas, donc normalement quand je vous parle, vous avez votre langue, attention tout le monde,
vous avez votre langue sur le palais, contre les dents,
elle est sur le palais, voilà, ouf, yes. Bonne réponse. Et la nuit elle doit être comme ça aussi. C'est vrai que quand on s'endort, bah finalement, elle peut avoir tendance à reculer, et on l'a dit, ça peut gêner. Donc, une première solution, ça peut être se dire, avant de mettre la machine, parce qu'une fois qu'on l'a, la machine, bah après, on peut plus l'enlever, on peut déjà essayer de voir, on verra tout à l'heure, hein, toutes les solutions et tout ça, mais c'est vrai que se poser déjà la question de sa langue, c'est intéressant. Et c'est vrai que bah si on a envie, hein, et qu'on a aussi les moyens, parfois, un traitement orthodontique peut modifier, alors c'est vrai, le visage, les dents, mais améliorer aussi la posture de langue et la qualité de sommeil.
C'est incroyable, je ne savais pas du tout que, voilà, en allant chez l'orthodontiste, on pouvait...
améliorer la
exactement.
Qualité de son sommeil.
Et oui, c'est fou.
Alors, les facteurs sur lesquels on peut agir, c'est le surpoids, l'obésité, parce que, en fait, dans notre cou, comme dans le reste du corps, quand on a une obésité, eh bien, on va avoir un peu plus de parois de graisse qui va se mettre dans le cou, et donc qui va rétrécir notre aération. Et il faut savoir aussi que, qu'on a parlé de la langue, ça c'est hyper important, et une langue placée en position basse, bah finalement, je vais avoir tendance à respirer avec ma bouche. Et donc, normalement, le nez, ça sert à respirer, et la bouche, ça sert à parler et à manger. Donc, quand on respire avec la bouche, on a une mauvaise respiration, et ça va amener un facteur favorisant de l'apnée du sommeil, puisque ma langue ne touchant pas le plafond, elle va reculer la nuit. Et respirer avec la bouche, c'est aussi ne pas utiliser ses filtres d'air, parce que vos filtres d'air dans votre voiture, bah, vous en avez aussi derrière le nez, c'est les végétations. Et quand vous respirez avec la bouche, bah, là vous utilisez d'autres filtres qui sont vos amygdales. Et en respirant avec la bouche, vous amenez plein de microbes qui doivent être filtrés avec le nez. Et donc vous avez des grosses amygdales. Et donc après, bah, grosses amygdales, ça fait beaucoup de volume dans la gorge, et donc plus d'air, pour respirer et pour bien dormir.
Mais attendez, mais l'histoire de la langue, en fait, je me dis, mais c'est inconscient. Quand on commence à s'endormir, comment on fait pour travailler et agir là-dessus, en fait? Ça me paraît impossible.
C'est vrai, on se dit, mais attends, mais quand oui. Je dors, je peux pas savoir où est ma langue.
Comment on fait?
Mais en journée, vous pouvez déjà, muscler tous vos muscles de bouche. Alors, ça va être le voile du palais. C'est tout simple, avec des petits exercices comme faire, par exemple. Alors, quand je fais un A, eh bien, mon voile du palais, il monte et l'air passe par la bouche. Et quand je fais en, eh bien, il passe par le nez. Donc, la petite muscu de la journée, ça peut être de faire A en. Comme ça, votre voile du palais, il monte, il descend. Et il va moins avoir tendance à vibrer, à ronfler, puisque c'est quand même cet organe qui vibre et qui nous énerve, puisque ça fait comme ça, là, on le voit bien.
Vous le tenez pas,
je l'ai bien quand même, je le sais. Hein, je... Bon. Et le truc, c'est après de se dire, ma langue, finalement, plus j'y pense dans la journée, plus je me dis où est-elle, comment est-elle, quelle est sa posture, plus la nuit, ça va se mettre aussi en place.
Bon, on voit bien nos journées dans l'open space à faire des A-an.
Mais c'est comme
ça. Nos collègues vont nous adorer. On continue à parler de sommeil ce matin sur France Bleu La Rochelle avec Élodie Pasquale qui est orthophoniste. Et vos questions, vos témoignages au 05 46 50 67 68. On va retrouver Daniel dans un instant à Charvette qui s'interroge autour des montres connectées par rapport au sommeil. 9h49 et on continue à parler de sommeil avec Élodie Pasquale qui est orthophoniste et puis avec vous aussi au 05 46 50 67 68.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes à Charvette, dites-nous tout.
Oui, Charvette, c'est la banlieue de Sorgères, si je puis me permettre.
Vous faites bien de préciser.
Oui. Alors, ma question concerne les montres connectées. J'en possède une et tous les matins, je regarde mon bilan de la nuit, du sommeil de la nuit. Est-ce que c'est le principe est fiable? Est-ce que la façon de que la montre a de repérer les sommeils profonds, légers ou les sommeils paradoxaux sont fiables?
Alors honnêtement, je peux vraiment pas répondre à votre question parce que ça dépend énormément en fait des critères de votre montre, dans le sens où qu'est-ce qu'elle va observer? Est-ce qu'elle observe les mouvements? Est-ce qu'elle observe les battements du cœur? Après, elle peut pas vraiment vérifier l'oxygénation du cerveau. Donc, c'est vrai qu'on a un peu tendance à peut-être surposer beaucoup sur ces appareils connectés, mais je resterai quand même assez sceptique. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être de commencer, si vous êtes curieux, de doubler avec votre montre avec une petite appli qui enregistre vos ronflements, qui va aussi enregistrer. Parfois, on peut parler. Alors, on n'a pas parlé de toutes les parasomnies, mais enfin, c'est encore un autre sujet. Faudra me réinviter. Il y a donc pas mal de personnes qui peuvent parler, qui ont du bruxisme, et tout ça, c'est des facteurs qui vont être plutôt enregistrés par votre téléphone, par cette appli, plutôt que par votre montre, quoi. Donc, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut absolument un complément, quoi.
C'est pas coupler les deux.
C'est un indicateur, mais c'est pas le seul.
Ah oui, il y en a d'autres quand même. Hein. Et puis, il y a votre indicateur personnel. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez besoin d'une sieste? Enfin, après, il faut vous faire confiance à vous aussi, hein, pas qu'à votre montre.
Tout à fait. Et concernant les problèmes cardiovasculaires, il y a la professeure Claire Mounier-Veillé qui sera lundi à Saint-Sandre pour une conférence et elle en parle régulièrement des problèmes d'apnée du sommeil par rapport sur les conséquences que ça peut avoir sur les maladies cardiovasculaires. C'est très important.
Daniel,
le sommeil.
Merci, vous êtes génial. Merci pour l'info.
Ce sera mardi, donc mardi 2 avril.
Ce sera mardi, ça va à 19h30 à la salle de l'Agora à Saint-Saint-Sandrice. Elle vient à l'occasion du bus du cœur qui revient pendant 3 jours à La Rochelle. Mais je pense que Éric Morgan en parlera.
Vous lui mettez la pression, là, on compte sur lui. Mais...
Voilà.
Merci Daniel, en tout cas.
Bonne journée à vous, merci beaucoup
merci.
En tout cas, au revoir.
Merci.
Alors c'est vrai que maintenant on a tout ça, on a parlé des appareils, alors on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit bah oui, moi ça m'a bien aidé, bon, c'est vrai, il n'y a pas que ça, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi, Elodie Pasquale?
Alors déjà, avec ces petits appareils, là, ces petites choses, on peut déjà essayer de commencer à se dire, à faire un peu le tableau de ce qu'on a observé. Si on a une montre connectée comme... Daniel. Si on, voilà, on s'est enregistré avec une appli, on peut commencer à en parler à son médecin. Après, il faut savoir, c'est le nombre d'apnées et d'hypopnées. Alors, ça y est, je suis partie dans les termes techniques, j'aime pas ça, mais apnée, c'est que vraiment vous n'avez pas d'air, et hypopnée, c'est que hypo, c'est que vous en avez moins. Donc, parfois, on n'a pas vraiment de, il reste un peu d'air, mais enfin, c'est quand même restreint. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est, on veut vérifier l'IAH. C'est vraiment cet index d'apnée ou d'hypopnée par heure. Si on a entre 5 apnées par heure, c'est normal. On a le droit d'en faire.
D'accord.
Entre 5 et 15, bon, légèrement augmenté, c'est limite, ça dépend. Mais en fait, à partir de 15 et 30, là, on peut commencer à s'interroger. Donc, si vous êtes inquiet, consultez votre médecin généraliste et il vous orientera, alors d'abord vers un ORL, enfin, il va faire le point avec vous, il peut vous envoyer aussi à l'hôpital pour faire des examens un peu plus complets. Le premier, par exemple, nous les orthophonistes, quand une personne peut venir pour complètement autre chose, on va commencer par lui faire commander une espèce de petite gommette, ça s'appelle un sunrise, et en fait, tac, vous le collez sur votre menton et il enregistre des choses un peu plus que votre montre connectée ou bien votre application, et on reçoit nous sur notre téléphone le matin, voilà, au petit-déj, paf, vos résultats, et ça nous permet de commencer à évaluer un petit peu la qualité de votre sommeil. Et après, c'est un peu plus souvent, enfin, vous avez beaucoup d'hypopnée ou d'apnée, dans ces cas-là, vous allez à l'hôpital, vous faites une polygraphie, une polysomnographie, c'est vraiment des enregistrements de votre sommeil. Après, c'est vrai qu'il faut aussi vraiment en parler avec un médecin du sommeil qui va évaluer, comme on l'a vu, hein, tous les facteurs qu'on peut gérer et pas gérer. Et puis, après, vous allez avoir plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez commencer par un traitement orthophonique si c'est que la langue, ou traitement kiné. Travaillez peut-être votre perte de poids si c'est une question de poids. Allez voir un ORL si c'est une histoire de respiration. Alors nous, les orthos, on aura bien vérifié aussi votre respiration nasale et buccale. J'insiste assez à chaque fois que je viens, mais vous pouvez voir l'opération des amygdales éventuellement, ou si voilà vous avez une déviation de la cloison nasale. Enfin, il y a plein de choses à voir. Et celle dont on parlait tout à l'heure, hors antenne, c'est la position, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui pourraient qui dorment sur le dos, avec une tête légèrement basculée vers l'arrière, donc qui favorise le ronflement. Je vois des mines
non,
qui
non,
subissent a priori. Bon, voilà. Et donc, la posture est à vérifier, à modifier. Donc, on peut essayer de dormir sur le côté ou bien sur le ventre, puisque mécaniquement, on va faire avancer la langue et notre voile du palais, qui vont du coup moins ronfler, puisque on va être en position sur le ventre. Alors, parfois, on se dit, oui, mais moi, j'arrive pas à dormir sur le ventre, tout ça. Mais quand je dors, je dors sur le dos, puis je me rends pas compte. Donc, la solution numéro un, c'est de dormir avec un petit sac à dos dans le dos, avec une serviette, pour que, en fait, finalement, le corps soit gêné, et pendant la nuit, on se dit, oh, j'arrive pas à dormir sur le dos, je vais mettre sur le côté. Voilà, c'est terrible, c'est de la vraie torture. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein.
Que ces personnes vous entendent.
Un message à faire passer, vient proposer un petit sac à dos du dodo à votre conjoint, comme ça on va voir si c'est possible. Et puis après, on a tout ce qui est orthèse, d'orthodontie et tout ça. Et après, finalement, si c'est vraiment une forte apnée du sommeil, là, dans ces cas-là, proposez la machine. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres solutions à explorer avant de passer à la machine.
N'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Merci Elodie Pasquale, en tout
merci
cas
beaucoup.
Merci ce matin sur France Bleu La Rochelle. À votre service, est à retrouver sur francebleu.fr.